culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour, chers auditeurs, c'est une joie immense de te retrouver pour un nouveau culte espoir. Salut Amandine!
Bonjour!
Sois la bienvenue!
Merci!
Comment tu vas?
Eh bien, écoute, nickel, premier jour de l'année.
Ouais, on est au taquet! Chers auditeurs, notre invitée d'aujourd'hui est Daniela Galbridge. Bonjour Daniela!
Bonjour!
Sois la bienvenue aussi.
Merci beaucoup.
Nous t'avons déjà vu l'année passée, hein?
Oui.
Il y a quelques samedis, là, au mois de décembre. Et alors, nous avons partagé de super bons moments avec toi. Et j'aurais aimé que tu te représentes. Comme ça, nos auditeurs pourront à nouveau être au bain, là, comme nous.
D'accord, avec plaisir. Je m'appelle Daniela Galbridge. Je suis professeure d'Ancien Testament et d'Hébreu à la faculté de théologie à Collonges, sous Salève. Je viens d'Allemagne, c'est pourquoi j'ai un petit accent. Voilà.
C'est pas grave, on aime les accents.
Hein? D'accord, merci. Et voilà, je vis en France et j'aime la parole de Dieu, j'aime les langues modernes aussi.
Magnifique.
J'aime beaucoup les langues et la rencontre avec l'autre, les histoires.
Voilà, ça tombe bien que tu sois là.
Et c'est un honneur de te recevoir. Merci en tout cas.
Merci.
Qu'as-tu préparé pour le partage biblique d'aujourd'hui?
Voilà, ça sera la vallée de l'ombre de la mort aujourd'hui. Mmh. Donc, on va voir.
Psaume 23.
Exactement.
Et les amis, c'est le premier samedi de l'année et c'est aussi le premier jour de l'année 2022. Mmh. Alors, on dit...
Bonne année!
Alors, chers auditeurs, nous avons un thème qui nous parle énormément. Nous allons commencer l'année en nous rappelant que Dieu nous accompagne tout le long de notre vie. Dieu s'adapte à chaque période de notre vie et il souhaite que cette relation entre Dieu et l'être humain grandisse continuellement. Amandine, quelle joie de commencer l'année avec toi.
Pareil.
Pour la chronique Dieu dans ma semaine, que vas-tu nous partager?
Alors, écoute, quand j'ai su le texte biblique de référence que tu avais choisi, Daniela, pour ce culte, donc à savoir psaume 23, j'ai été très enthousiaste. C'est un psaume que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup entendu de méditation, de réflexion, d'analyse autour de ce psaume, qui n'est pas aussi facile qu'il peut paraître. Et en préparant le culte d'aujourd'hui, j'ai eu envie de lancer un « à Dieu », le défi de vivre avec lui un temps de prière et louange, je suis musicienne, autour de ce texte. L'objectif fixé avec Dieu était que j'expérimente ce texte comme je ne l'ai jamais expérimenté, apporter une compréhension nouvelle, un vécu nouveau. Alors sans rentrer dans tous les détails de cette expérience qui m'est très personnelle, j'aimerais te partager l'approche que j'ai pu expérimenter, peut-être pour te donner des idées à explorer chez toi, dans ton intimité avec Dieu. Peut-être que ce sont les musiciens qui vont plus se reconnaître dans mon expérimentation. Et encore, je serais sans doute surprise de ce qu'un non-musicien pourrait en tirer.
Ah tiens, là tu éveilles ma curiosité.
Ouais, écoute, je me suis donc posée dans notre salle de musique devant mon piano, la Bible ouverte en face de moi, au psaume 23. Et j'ai prié Dieu un peu du genre « Bon bah voilà Seigneur, c'est parti pour cette expérimentation avec toi, guide-moi ». Et donc j'ai lu le premier verset « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Aïe, direct ce verset piquait chez moi un point sensible. Je me suis posé deux questions. Est-ce que Jésus est mon berger dans ma vie? Et ça veut dire quoi? Et puis surtout, ça veut dire quoi « Je ne manquerai de rien ». J'ai trouvé ces questions super difficiles. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à jouer du piano. Une mélodie improvisée qui me venait en lien avec l'émotion que je ressentais en lisant ce verset. J'ai commencé à redire ce verset en le chantant sur cette mélodie. Donc c'était complètement improvisé, mais on s'en fiche, personne n'écoute, à part moi et Dieu. Et puis je me suis arrêtée de jouer et j'ai posé des questions à Dieu sur ce qu'il me semblait me manquer dans ma vie. posait des questions sur comment il pouvait être mon berger. Bref, on a discuté tous les deux. J'ai pas forcément eu beaucoup de réponses d'ailleurs, mais j'ai pu soumettre certaines interrogations à Dieu, mettre des mots dessus. Et puis je suis passée au verset suivant, j'ai lu à voix haute. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme près de l'eau. Ah justement, j'étais fatiguée ce jour-là, alors j'ai de nouveau fermé les yeux et j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide à imaginer comment pouvait être ce lieu pour moi. Et j'ai commencé à improviser de nouveau au piano. C'était cette fois une mélodie très différente que la première que j'avais jouée. Quelque chose de très doux, de très léger. Puis il y a une vieille compo qui m'est revenue, que j'avais jouée il y a 10 ans. Puis je fais, oh tiens, tiens. Donc en jouant, je me suis vue dans cet espace paisible. J'ai senti la chaleur du soleil, la douceur de l'air. J'ai commencé à respirer calmement. J'étais encore dans ma chambre. Je me sentais dans sa présence et j'ai commencé à voir même les larmes qui montent aux yeux, une douce paix. Alors j'y suis restée un moment, 5-10 minutes, là c'était bien. Et puis je suis passée au verset suivant. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie parce qu'il est fidèle à lui-même. Est-ce que j'avais besoin que Dieu ranime mes forces ? J'ai commencé à mettre en revue dans ma tête tout ce qui s'était passé les jours précédents. J'ai confessé des mauvaises voies, des mauvais choix. J'ai mis en mots les sphères de ma vie où il me semblait que je manquais de ressources, de force, de motivation. Et puis mon regard s'est arrêté sur « il est fidèle à lui-même ». Bon Dieu, je peux avoir confiance que tu ranimes mes forces, que tu me conduis car tu es fidèle à qui tu es, mais qui es-tu ? Alors j'ai recommencé à jouer au piano, encore une autre mélodie qui m'est venue, très différente à nouveau, et j'ai commencé à dire en chantant certaines histoires de la Bible où Dieu s'est montré fidèle. Ah bah oui, parce qu'on retrouve beaucoup dans la parole des exemples, autant que je me base sur la Bible en premier. Alors j'ai commencé à dire, ah voilà Dieu, hein, fidèle avec Abraham, puis c'est que je suis partie à me rappeler ce qu'il avait fait pour Abraham, puis après ce qu'il avait fait pour Joseph. Et puis après, je me suis dit, tiens, mais ouais, mais ça me fait penser aussi à comment Dieu a été fidèle dans la vie des gens autour de moi. Alors je dis, voilà, merci Seigneur, t'as été fidèle dans la vie de ma maman. Puis j'ai pu improviser, à chanter à Dieu ça. Et puis ça est revenu vers moi, où j'ai commencé à réfléchir toutes ces fois dans ma vie. Le Seigneur a été fidèle envers moi. Et après, j'ai eu envie de continuer à chanter, mais cette fois-ci, en disant à Dieu juste des qualités que je lui trouvais à lui. Alors j'ai commencé à lui dire qu'il était bon, qu'il était constant, qu'il était éternel. Et j'ai continué ainsi sur tout le reste du psaume. Des moments d'improvisation de piano, en chantant, en prière silencieuse, en prière à voix haute, en réflexion. Et le Seigneur m'a béni, vraiment il m'a interpellé, il m'a ouvert les yeux sur certaines vérités aussi dans ma vie. Voilà, lire la Bible, ça peut prendre plein de formes différentes. Et la Bible, notamment les psaumes dont on va parler aujourd'hui, peut aussi servir à vivre des temps de prière et de louange et d'adoration avec Dieu. Alors je prie pour que tu puisses toi aussi expérimenter des temps dans l'intimité avec Dieu où il va utiliser ta sensibilité, tes dons, pour dialoguer avec toi.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. marche au son de sa voix. Son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Grâce et bonheur m'accompagne pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh.
Parfois, on se sent seul face aux difficultés. Parfois, on ne voit pas trop de solutions. Alors, je te laisse un merveilleux texte comme réflexion. Il se trouve dans la Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12. « Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. » C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Aujourd'hui, pour ce culte espoir, nous parlons de Jésus qui nous accompagne à chaque étape de notre vie. Dans les temps de joie, de repos, dans les vallées obscures, au cœur de nos peurs, au cœur de notre existence, c'est très réconfortant de savoir que Dieu est là à nos côtés. Je te propose d'écouter et pourquoi pas de chanter avec le groupe collectif Cieux ouverts qui nous propose un chant Yahweh qui aborde ces questions justement. Écoute.
Il y a quelque temps, Marina m'a fait découvrir le chant dont je vais te faire écouter un extrait. Il dure en vrai 10 minutes. Je t'invite à aller l'écouter une fois tranquillement en entier parce que je le trouve très touchant. Il parle du Dieu Jéhovah Jireh, qui veut dire Dieu qui pourvoit ou qui pourvoira. Ce chant est intitulé Jireh, psaume 151. Alors si tu vas dans ta Bible, tu vas vite te rendre compte que les psaumes s'arrêtent au psaume 150. Le 151 n'existe pas. Alors je comprends ce titre comme une invitation à poursuivre l'œuvre de David et des autres compositeurs des psaumes. Si aujourd'hui, tu devais composer un psaume, chanter un chant à Dieu, que lui dirais-tu ? Quel témoignage rendrais-tu ? Alors le groupe Elevation Worship et Maverick City te propose cette version du psaume 151. Je te propose de l'écouter ensemble.
Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi.
Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi.
Tu traverserais les mers si je me noyais.
Rien ne t'empêchera de me protéger.
J'irai,
j'irai, je n'ai que toi.
En toutes circonstances, je serai comblé,
car tu es,
je n'ai que toi.
Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé.
Et même dans la vallée, tu es avec moi.
Je n'oublierai jamais ce que tu as fait.
Auditeur, tu te trouves au culte espoir. Nous avons tous des montagnes à traverser. Les difficultés ne sont jamais bien loin, malheureusement. Des fois, cela est représenté par des situations financières compliquées ou encore la recherche d'un emploi. La montagne à affronter peut être une maladie ou encore un enfant difficile à gérer. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau Flavia. Elle a vécu des moments très difficiles dans sa vie. Et elle a accepté de nous donner son témoignage. Bonjour Flavia.
Bonjour.
Sois la bienvenue.
Merci de l'invitation.
Merci à toi d'être venue. Flavia, il me semble... En fait, avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes.
Alors, je m'appelle Flavia. Je suis née au Brésil, de mère brésilienne et père portugais.
D'accord.
Du coup, j'ai les deux nationalités de naissance. Mm-hmm. Et ça fait... bientôt 21 ans que j'habite en Suisse.
D'accord.
Et voilà, je suis mariée, j'habite à Genève et je fréquente l'église lusophone.
Super.
Et c'est un plaisir d'être ici.
Ah, bah c'est chouette. Et il me semble, Flavia, que tu as passé par quelques étapes difficiles dans ta vie. Est-ce que tu veux bien nous raconter?
Oui. Alors, depuis toute petite, je rêvais d'être maman.
Ah, ça c'est le rêve de beaucoup de petites filles. Hein?
Oui, je crois bien. Et Je rêvais d'être maman et à tel point qu'à un moment donné de ma vie, au début de mon mariage, le fait de regarder les images des mamans avec des petits bébés ou de voir une maman dans la rue avec son petit bébé, ça me faisait pleurer. Tellement j'avais envie et je savais la difficulté que j'avais.
Je vous explique.
J'avais découvert auparavant, 10 ans en arrière, un problème de santé. J'avais un adénome hypophysaire.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire une tumeur à l'hypophyse. L'hypophyse est une petite glande que se trouve à la base de notre cerveau. Et cette glande, même étant petite, elle est responsable de beaucoup de fonctions dans notre corps. Et elle est responsable pour toutes les autres glandes de notre corps. Et aussi pour la régulation hormonale. Du coup, cette tumeur empêchait que...
Que tu tombes enceinte.
Que je tombe enceinte. J'avais pas d'ovulation, je pouvais pas. Et après plusieurs années de traitement avec des médicaments et étant contrôlée régulièrement, ce problème était presque résolu. À la dernière résonance magnétique que j'ai faite, le médecin m'avait dit « Écoutez, là, c'est bientôt fini parce qu'on voit qu'un petit point sur l'image. » Et ça, c'était au début de mon mariage. J'étais toute contente.
C'était une bonne nouvelle quand même.
Voilà, je vais réaliser mon rêve. Mais ce qui m'attendait pas, je m'attendais pas, c'est que au prochain contrôle, ça a commencé à se dérégler sans explication. C'est-à-dire, les niveaux de la prolactine, c'est l'hormone qu'elle produisait en trop, cette tumeur, dans le sang commençait à monter sans explication, à nouveau. La tumeur a recommencé à croître et on ne savait pas pourquoi. Et on a essayé, avec le traitement, de faire baisser, on a augmenté le dosage, on a changé de médicaments, on a essayé tout ce qui était possible et on n'arrivait pas à
réguler. Une solution pour ça.
Du coup, on m'a proposé une chirurgie. Il va falloir enlever la tumeur. J'avais un peu peur, mais je me suis dit « Ok, on y va ». Et j'étais assez tranquille pour cette chirurgie. Je suis allée, c'était au Portugal. Donc, je suis passée par cette chirurgie et par la suite, c'était très compliqué. Parce que le post-opératoire était très difficile. Et après 3 mois de la chirurgie, j'ai su qu'il a eu une complication pendant la chirurgie et ma vie était en danger. Et du coup, ils n'ont pas pu enlever du tout la tumeur. Et quand
l'opération n'a servi à rien.
Et en plus, c'était très pénible le post-opératoire et tout. Du coup. J'étais très frustrée parce que je me suis dit « Pourquoi passer par tout ça, Seigneur? Pourquoi j'ai dû ?» Et après, pour rien, on est revenu au point zéro. Du coup, à nouveau de traitement pour essayer de faire réguler à nouveau le problème, régler, et rien. Donc, on s'est rendu vite à l'évidence qu'il fallait une deuxième chirurgie. Et là, j'avais très peur.
Parce que déjà, si ça s'est mal passé pour la première chirurgie,
c'était comme ça. Je me suis dit, mon Dieu, je dois passer par ça à nouveau. Aide-moi. Et j'ai prié parce que j'ai dit, j'ai pas le courage d'y aller. Aide-moi, donne-moi ce courage. Et dans mon esprit, j'ai eu l'envie de demander au pasteur de prier pour moi. Et j'ai pensé, pourquoi pas demander de recevoir une onction. J'avais lu sur la Bible que les gens avant demandaient l'onction, non seulement en cas de mort imminente, mais aussi pour des problèmes de santé qu'ils avaient besoin d'avoir une bénédiction spéciale.
Dans l'objectif de régler sa vie.
De régler ça, oui, de demander vraiment l'intervention de Dieu. Je sentais que j'avais besoin de ça. J'ai parlé au pasteur, il était d'accord. Donc, on a pris rendez-vous un jour chez moi. Et c'était un moment très, très intense.
J'imagine.
Du coup, on a eu un moment de prière. On a eu un moment de confession. Parce qu'il s'est dit, on va se préparer à ce moment. C'était très fort en émotion. Et par la suite, j'ai reçu l'onction. Et après cela, il m'a dit, écoute, si, qu'est-ce que tu veux en fait demander à Dieu? Et j'ai dit, je veux demander trois choses. Que la chirurgie se passe bien, que je sois guérie pour toujours de ce problème, qu'il ne revienne pas, parce que c'était une probabilité qu'il revienne, et que je puisse être mère.
Wow, tu as osé.
Trois choses. Et puis, il a dit, OK, et ce Dieu, il répond à ta prière, qu'est-ce que tu veux lui donner en retour? Et j'ai dit, je veux offrir cet enfant à Dieu, je veux lui dédier.
Comme et Anne dans la Bible.
Voilà, j'avais envie, parce que j'ai dit, c'est Dieu qui me donne, je veux qu'elle soit au service de Dieu. Et deuxième chose, je veux faire un culte à notre église et je veux faire un culte de remerciement, de louange, si j'ai cette bénédiction. Et voilà, par la suite, j'étais très calme, j'étais tranquille. Donc, je suis allée pour la deuxième chirurgie. Tout s'est bien passé.
Ah, c'était mieux que la première fois.
Beaucoup mieux. La post-opératoire, c'était super. Grâce déjà en Dieu. Suisse, là, cette fois. Et par la suite, on attendait parce qu'il a dit, maintenant, on va attendre si le corps, il répond. Parce que là, il faut voir si l'hypophyse, elle recommence à travailler et tout ça. On va attendre. J'ai dit, combien de temps? Combien de temps? Il disait, 6 mois. Attendons 6 mois. Et nous verrons si le corps commence à travailler. Et après 6 mois, rien. Donc, le signal, c'était que je devrais avoir mes règles. Mmh. Et là, c'était le signal que l'hypophyse reprenait à nouveau ses fonctions. Et rien après 6 mois. Du coup, il dit, bon, on va peut-être voir pour une stimulation hormonale si tu veux devenir maman. Et prends rendez-vous avec ton gynécologue. Et le temps que je prends rendez-vous et que j'ai le rendez-vous, voilà, mes règles sont revenues spontanément.
Bon, et c'était. Fois, on est content que les règles soient là.
Voilà, et j'étais toute contente. Voilà, comme les femmes n'est pas très peut-être contentes ce moment de moi, mais là j'étais vraiment contente. J'ai appelé toute la famille, on a fait la fête justement parce que j'ai eu mes règles. Et après, il a dit OK, le médecin, il a dit on va attendre si tu tombes enceinte spontanément. Donc on va attendre encore. 3-4 mois, on ne peut pas attendre parce que j'avais bientôt 40 ans. Donc, c'était un peu tard. Du coup, on a attendu et après 2 mois, voilà, je suis tombée enceinte.
Tu es tombée enceinte.
Oh, merveille.
Du coup, c'est merveilleux. Oui. Et je peux, en conclusion, dire c'est que Dieu a répondu à mes 3 demandes.
À tes 3 souhaits.
La chirurgie s'est bien passée. Le problème n'est plus revenu du tout. Et je suis maman.
Oh, elle a quel âge?
Elle a 8 ans aujourd'hui. 8 ans. C'est mon petit miracle. Et je dois vous dire que pendant ce moment de difficulté que j'ai eu, ce moment de peur de la deuxième chirurgie et tout ça, il y a eu en psaume un chapitre que Dieu m'a donné le jour de la chirurgie. Je me réveille, j'ai dit, Dieu, j'ai besoin de savoir que tu es avec moi. J'ai besoin de sentir cette assurance. Donne-moi une parole. Et j'ai ouvert ma Bible au psaume 33.
D'accord.
Hein? 10 psaumes après le 23. Et je suis tombée là. Et si on regarde après la verset 12, hein, à partir du verset 12 jusqu'au 20, regardez-moi ce qu'il a dit. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes les actions, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur Amen. Ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort, ma peur de la mort, et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier.
Amen.
Et c'est avec ce message que je suis partie pour la chirurgie en toute confiance. Dieu Amen. Est avec nous, même au milieu des difficultés.
Merci beaucoup Flavia pour ton partage.
Merci.
Et ça fait du bien de pouvoir commencer l'année avec la certitude que Dieu vient nous chercher là où nous sommes et que nous pouvons toujours lui faire confiance. Je remercie Dieu d'avoir rétabli ta santé et je le remercie aussi d'avoir comblé tes 3 souhaits et que Dieu continue dans ta vie. Alors moi, je te souhaite un bon retour chez toi auprès de ta famille.
Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. Le Seigneur est mon berger. Une des phrases les plus célèbres dans toute la Bible.
C'est vrai.
Et c'est une phrase qui a consolé et restauré des milliers d'êtres humains au cours de l'histoire de l'humanité. On s'est accroché à cette phrase. Et là, au début d'une nouvelle année, si jamais on traverse des moments difficiles, hein, voilà, c'est une phrase. C'est quelqu'un à qui on peut s'accrocher. Le Seigneur est mon berger. En fait, dans ce psaume 23, il y a 4 portraits du Seigneur. Il n'est pas seulement le berger, c'est vrai, les premiers versets parlent d'un berger. Les verts pâturages, les eaux paisibles, voilà, il conduit, c'est un berger, c'est clair. Mais il y a d'autres images dans ce psaume, parce que à partir du verset 5, on a quelqu'un qui tresse devant moi une table en face de mes adversaires et qui enduit ma tête d'huile. Là, le Seigneur est un hôte. Et juste avant, le Seigneur est quelqu'un qui me réconforte, qui est à côté de moi, donc il est un consolateur. Donc le berger, le consolateur, l'hôte. Et finalement, celui qui est invité, c'est également un hôte. Et après, en fait, le psaume va dire que le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Dernier verset. Et là, aime le Seigneur, la maison du Seigneur, le Seigneur est Père. Et finalement, c'est lui qui écrit le psaume, il arrive à la maison, il n'est plus hôte et l'auberge devient la maison. Il peut s'asseoir, il peut s'asseoir. Et finalement, au début, le Seigneur est mon berger. On pourrait aussi traduire « le Seigneur est mon ami ». En hébreu, le mot, voilà, dans le livre du Cantique, des Cantiques, voilà, c'est traduit par « ami ». « Le Seigneur est mon ami ». Mais là, le contexte parle d'un berger, c'est clair. Et dans l'Antiquité, le berger ou le roi est également considéré comme un berger. Donc « le Seigneur est mon roi ». Et le Seigneur est là. Et là, le texte commence par « Voilà, il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. » Donc là, on a vraiment la belle vie. De verts pâturages, des eaux paisibles. Il est là. Il conduit. Il a un nom aussi. Il est fidèle à ce nom. Mais tout d'un coup, à partir du verset 4, il y a quelque chose qui change. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » La Bible est très honnête avec nous. Parce que la vie n'est pas seulement vert pâturage et eau paisible.
Ça aurait été bien, mais
oui,
c'est pas le cas.
C'est pas le cas, n'est-ce pas? Il y a aussi la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce qui est frappant dans ce texte, qui a vraiment consolé beaucoup d'êtres humains, ce qui est frappant, que à partir du verset 4, ce n'est plus le « il » qui conduit, mais le « il » devient « tu ».
Il y a beaucoup de changements, en fait. Hein.
Exactement. Le texte change parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les moments difficiles de la vie, et la vallée de l'ombre de la mort fait partie de l'existence humaine, le texte est honnête. Et chacun traverse une vallée de l'ombre de la mort. Ça fait partie de notre vie. Mais là, ce Dieu, le Seigneur, qui est mon berger, il devient tu. Il devient un vis-à-vis. Et le centre de ce psaume, c'est cette phrase « Car tu es avec moi ».« Toi avec moi » en hébreu. Donc, la vallée de l'ombre de la mort, ça fait partie de nos existences. Mais dans ces moments difficiles, ce Dieu devient un tu, un vis-à-vis qui est avec moi.
Il devient proche.
Il devient proche et il y a l'intimité qui se crée, qui est encore plus proche que ce il qui, voilà, qui est là lorsque tout va bien. Et c'est vrai, dans notre terre ou sur notre terre, il y a des êtres humains qui traversent des vallées de l'ombre de la mort tout le temps. La souffrance est répartie de façon injuste. Et il y a des gens qui enchaînent la souffrance ou des moments difficiles de la vie. Et on se pose la question de savoir, mais pourquoi ? Et d'autres qui ont la vie en rose. Mmh. Il y a vraiment des gens qui traversent la vie avec, voilà.
Ou en tout cas n'ont pas de gros soucis comme d'autres personnes.
Exactement. Donc là, on voit, c'est l'irrationalité du mal qui frappe. On vit dans une réalité irrationnelle où le mal vraiment fait ses ravages, mais où il y a cette injustice par rapport à la souffrance et à des obstacles qu'il faut surmonter de la vie. Mais le texte encourage, il dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, toi avec moi. C'est un Dieu qui traverse des moments difficiles avec nous. Il est ce berger, cet ami, ce roi qui est à nos côtés. Et d'ailleurs, dans la Bible, ce berger va laisser sa vie pour les brebis. C'est le Nouveau Testament qui attache cette image à Jésus. Il est le bon berger qui laisse sa vie pour ses brebis. Et d'ailleurs, le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, il parle du Seigneur en tant que brebis mené à l'abattoir. Donc, le Seigneur lui-même est quelqu'un qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il est cette brebis qui sera égorgée, en quelque sorte, qui est face à la mort, qui meurt pour nous, finalement. Et quand on regarde le psaume qui précède, le psaume 22, on a une déclaration qui sera reprise dans le Nouveau Testament lorsque Jésus, ce Dieu qui est descendu dans notre réalité, lorsqu'il est cloué à la croix, lorsqu'il laisse sa vie, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est exactement la première partie du psaume qui précède. Donc le Seigneur lui-même traverse la vallée de l'ombre de la mort et il se sent abandonné par son Père. Il est déboussolé, il est déraciné, il est vulnérable, cloué à la croix. Et finalement, si nous devons traverser la vallée de l'ombre de la mort, Dieu aussi, il a traversé.
Il sait très bien ce que c'est, en fait.
Au combien il nous comprend.
Exactement, il s'identifie à nos souffrances. Et le psaume qui suit, c'est le psaume 24. Là, ce psaume parle d'un roi glorieux qui fait son entrée dans une ville. Il est glorieux, il est splendide. Et là, on voit que la maison du Père, c'est le Père qui attend l'être humain, qui est là, qui veut nous accueillir. C'est vraiment le but de notre voyage sur cette terre, c'est d'arriver à la maison du Père. Ce Père qui est là, qui donne son Fils à l'humanité, ce Fils qui meurt, qui traverse cette vallée de l'ombre de la mort. Mais après, c'est un roi qui va revenir en gloire pour accueillir ses enfants.
En fait, il y a une continuité.
Exactement. Finalement, ce psaume, il raconte aussi notre trajectoire en tant qu'être humain. Donc, on est conduit par ce berger. Mais il y a des étapes dans la vie. D'accord, c'est un Dieu qui nous conduit. C'est aussi le langage de l'Exode au début de ce psaume. Hein? Dieu qui libère son peuple de l'esclavage en Égypte. Dieu qui libère son peuple de l'esclavage du mal, du péché, de la haine, tout ce qui nous traverse finalement. Il veut nous libérer. Et c'est vrai, il y a deux verts pâturages dans nos existences avec Dieu. C'est vrai, des eaux paisibles. C'est vrai. Mais il nous conduit aussi à travers la vallée de l'ombre de la mort. Mais après, il y a cette table qui est tressée devant nous. On sort de cette vallée de l'ombre de la mort, on a grandi. Il y a peut-être une maturité qui s'est installée dans notre vie. Il y a une table tressée devant nous. Et finalement, on est hôte. Et c'est Dieu qui nous sert, qui est l'hôte, qui invite. Et après, mais ce n'est pas la dernière étape. Parce que la dernière étape, c'est arriver à la maison du Seigneur, être assis. Être fils, être fille, être accueilli par ce Dieu, par ce berger, par ce roi, par cet ami qui reste à nos côtés. Et c'est vrai, nous ne savons pas ce que l'autre traverse dans la vie, on ne le sait pas. Quelquefois, on cache ses soucis, ses trames intérieures, ses questionnements existentiels, on les cache peut-être, mais ce psaume nous invite à répandre nos cœurs devant Dieu. parce qu'il lit nos cœurs et il peut compatir. Il est vraiment là pour compatir et pour comprendre. Et il y a une issue à la crise. Il y a un après.
Ça, c'est voilà. Rassurant.
Et c'est rassurant, absolument. Donc, la maison du Seigneur, elle nous attend. Mais accrochons-nous au Seigneur, au berger, dans cette vallée de l'ombre de la mort. Parce que là, il y a la houlette et le bâton du Seigneur, du berger. Et une houlette, un bâton, c'est proximité. Le berger n'est jamais loin lorsqu'on est avec lui dans cette vallée de l'ombre de la mort. Donc un réconfort, un consolateur, un berger, un ami, un roi, un consolateur, un hôte, un père qui nous attend. Donc le Seigneur, il est avec moi. Tu es avec moi. Toi avec moi.
Amen. Il y a quelques années, je vivais en Angleterre avec une colocataire française. Nous ne pouvions pas plus être différentes, et c'est peut-être cela qui nous avait tant rapprochés et qui faisait qu'on s'entendait aussi bien, cette athée rock'n'roll Sex on the Beach et moi. À l'époque où je vivais en Angleterre, et je pense c'est encore pas mal le cas, les musées, galeries d'art, etc. étaient très souvent en accès libre, gratuite au public, et donc ma coloc était donc allée, je ne sais plus pourquoi, dans une galerie d'art, et en rentrant, elle m'explique qu'une peinture l'avait un peu interpellée, elle était restée perplexe, c'était une peinture d'une brebis perdu.
Ah, c'était une référence biblique à la parabole de la brebis perdue.
Oui, tout à fait, c'est ce que je lui ai dit, une parabole de Jésus qu'elle ne connaissait pas. Et d'ailleurs, ça va être un clin d'œil entre nous, avant qu'on ne se sépare, je vais lui offrir une Bible et lui dire, écoute, voilà, la prochaine fois que tu rencontres une brebis perdue ou une autre référence biblique, tu pourras la reconnaître. Dans une société judéo-chrétienne imbibée de symbolisme chrétien dans sa culture, son calendrier, son histoire, ça peut servir.
Et c'est vrai que des brebis, des moutons, des agneaux, il y en a plein dans la Bible, et des bergers aussi d'ailleurs.
Alors si je vous donne quelques petits exemples, d'ailleurs tu en as cité, dès le commencement de la Bible, on parle de bergers, dans Genèse 4, le fils de Adam et Ève, Abel, est un berger qui va d'ailleurs être tué. Intéressant.
David, le futur roi d'Israël, était berger.
Ésaïe aussi, ce que tu disais dans le chapitre 40, verset 11, dit Dieu est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent des petits. Et puis dans le Nouveau Testament,
les bergers et les moutons vont recevoir la bonne nouvelle de la naissance de notre Sauveur.
Jésus, forcément, comme tu as dit, va s'annoncer comme étant ce berger dont Israël et nous, enfants de Dieu par extension, avons besoin dans Jean 10, 10 et 11. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses moutons. Et si on regarde de plus près, Jésus dit qu'il est le berger, et comme tu as dit, mais il devient aussi agneau. Jean-Baptiste va dire l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, l'agneau qui est mené à l'abattoir, comme disait Ésaïe. Alors un berger qui devient un agneau, c'est pas hautement symbolique ça?
Et on retrouve cet agneau dans l'Apocalypse, cette fois-ci dans la gloire de son triomphe sur la mort. Apocalypse 5, verset 12, l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange.
Alors pourquoi on vous dit tout ça? Ça change quoi dans ma vie de savoir tout ça? Alors la Bible me fascine par la richesse de ses symboles, par tous les échos que l'on retrouve entre ces deux testaments, par l'ingéniosité de Dieu qui se révèle et révèle son plan pour nous à travers ses échos notamment.
À travers la réalisation de sa parole.
Dans la psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et des siècles plus tard, Jésus arrive et nous révèle, les gars, c'est moi!
Et les gens vont reconnaître qu'il est en effet ce berger, en effet ce Messie qu'ils attendaient. parce que Jésus va accomplir ce que la parole annonçait que le Messie ferait.
Et si ce Jésus est le bon berger et qu'il veut être mon berger, ça veut dire qu'il veut m'offrir quoi? Qu'il peut être qui pour moi? Tout ce qu'on a pu voir dans le psaume 23, mais encore tellement plein d'autres choses que l'on retrouve dans la Bible.
Personnellement, ça me rend curieuse. Curieuse d'aller fouiller cette Bible pour mieux comprendre qui est Jésus et quelle vie il me propose de mener avec lui.
Pareil, et tout d'un coup, être un mouton, je ne l'associe plus du tout à quelqu'un qui suit bêtement quelque chose ou quelqu'un. Si mon berger c'est Jésus, je veux bien être ce mouton qui met sa confiance dans ce berger qui me connaît et qui sait exactement ce dont j'ai besoin. Ça, c'est un mouton classe VIP.
Et c'est surtout un berger hors catégorie.
Voilà, alors pour ce début de nouvelle année civile, j'aimerais t'inviter à aller explorer la Bible, à t'ouvrir, à découvrir sa richesse, à laisser Dieu te guider dans tous ces livres bibliques qu'il a inspirés, dans toutes ces métaphores et symboliques qu'il a ficelées, afin de nous aider à mieux comprendre qui il est et ce qu'il veut pour nous.
Les soucis font sur moi en avalanche.
Mon père prend soin.
Les torrents m'inondent et je ne suis pas étanche.
Mon père prend soin.
Quand autour de moi tout semble contredire ses promesses. Quand le stress envahit mon cœur et m'oppresse, il est une réalité qui ne change pas. Parce qu'elles sont assez larges pour porter tous mes fardeaux. Il se soucie de tous mes besoins. En lui ma vie est assurée. Mon berger me conduit d'un pas assuré. Parce que mon père prend soin. Parce que mon père prend soin. Je ne manquerai.
Chère Daniela, nous avons pris pour habitude de proposer à nos invités une chronique très spéciale, questions et vérités. Es-tu prête?
Je suis prête.
On y va.
On verra.
Alors, tu as parlé dans ton message de Yahvé comme berger, comme roi, comme consolateur, comme hôte, comme père. Peux-tu nous partager une fois où Dieu s'est révélé à toi comme une de ses figures?
Oui, en tant qu'ado, j'étais vraiment très très perdue, très révoltée, très en colère. Je voulais quitter le christianisme. Je
on dirait viens... pas ouais. comme ça.
Oui, on ne dirait pas, n'est-ce pas? Je suis trop douce pour cela, mais à l'intérieur, hein, ma vie intérieure était différente. Et là, je voulais vraiment quitter le christianisme, vraiment, pour toujours. Je voulais devenir agnostique ou me lancer dans la littérature, la philosophie. J'aimais beaucoup. Hein. Et là, au fond du trou, hein, parce qu'on a tous des questionnements existentiels, je me battais contre la solitude. J'avais beaucoup d'amis autour de moi, mais il y avait une solitude incroyable en moi. Et là, à la dernière minute, j'ai pris la Bible pour trouver un ancre, parce que tout s'écroulait en quelque sorte. Et là, j'ai commencé avec l'Ancien Testament, c'est pourquoi j'ai un lien particulier avec l'Ancien Testament.
Un coup de cœur.
Exactement. Et j'ai rencontré Dieu. Grâce aux prophètes de l'Ancien Testament. Et ça m'a relevée à un tel point que j'ai retrouvé ma dignité. Et honnêtement, là, j'ai trouvé un berger, hein, malgré voilà, et cette solitude. Voilà, j'ai été comblée. Hein, les circonstances de la vie étaient les mêmes. Hein, et voilà, mais il y avait un ancre. Et là, j'ai rencontré ce berger ou cette amie hein, qui est là, qui reste malgré moi, qui ne me lâche.
C'est très fort. C'est en plus, c'est rare d'entendre un témoignage où c'est par l'Ancien Testament, notamment.
Oui,
exactement, c'est ce que j'allais dire.
Ouais, ouais. Ouais, c'est très fort.
Daniela, quel est un de tes livres de la Bible que tu préfères?
C'est difficile à dire. Je pense que la Bible est une bibliothèque, voilà, qui comprend beaucoup de livres. Mais j'ai rencontré Dieu grâce au livre d'Ésaïe. Finalement, les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament me tiennent à cœur, vraiment. Et dans le Nouveau Testament, les évangiles, l'évangile selon Jean, peut-être. Aussi les épîtres. Voilà, aussi le Pentateuque. Tout est important, tout à sa place. Mais le livre d'Ésaïe m'a touchée profondément. Il a vraiment bouleversé.
Oh, ça donne envie d'aller relire le livre d'Ésaïe.
Où est-ce que Dieu s'est révélé à Daniela?
Exactement.
C'est voilà. Bien.
Merci beaucoup pour ce partage.
Avec plaisir. Merci de m'avoir accompagnée. Prions. Merci, Père. Parce que tu es un Père aimant, tu connais notre condition en tant qu'être humain et tu chemines avec chacun d'entre nous individuellement. Merci parce que tu as envoyé ton Fils, ce bon berger qui nous a cherchés, qui nous cherche toujours et qui reste à nos côtés. Merci d'avoir un grand cœur, d'avoir cette grandeur intérieure, de nous accueillir tels que nous sommes, de préparer une table devant nous, de prendre soin de nous chacun individuellement. Reste à nos côtés durant tous les jours de cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous et rappelle-nous que tu es là, toi avec moi, tu es un tu, un vis-à-vis, toi avec nous. Merci pour ton amour, ta grâce, ta patience, ta compassion, ta compréhension. Merci pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Amen.
Bon, après toutes nos discussions et nos réflexions, il va falloir mettre tout ça en pratique. Pour l'action de cette semaine, peut-être tu as déjà une petite idée de ce que je vais te proposer. Alors, est-ce que toi, tu connais le psaume 23 par cœur?
Oui.
Oui, bravo, alors je te félicite. Pas encore, c'est le moment de régler cette affaire. Voilà le défi. Cette semaine, je te propose d'apprendre par cœur le psaume 23. Facile, n'est-ce pas? Alors, je vais rendre ce défi un peu plus intéressant. Vu qu'en Suisse, on parle 4 langues, je suggère que tu apprennes le psaume 23 dans une de nos langues nationales. Ok, je serai gentille, je te laisse libre de choisir n'importe quelle langue. Hein, même si ce n'est pas une langue suisse, qu'elle soit anglais, portugais, espagnol ou n'importe quelle autre langue de ta préférence. Et bon mesdames, bah on arrive à la fin, malheureusement on devra se quitter. Merci beaucoup pour ce culte que nous avons vécu ensemble. C'était un message merveilleux, Daniela. Merci, merci et merci d'être venue partager ces réflexions avec nous.
Avec plaisir, merci.
Chers auditeurs, ça vaut la peine d'être lié à Dieu. Je te souhaite d'entretenir cette intimité si précieuse avec notre Seigneur. Dieu t'aime, il se fait des soucis pour toi et il a des plans merveilleux pour toi. Je te souhaite une belle journée, une belle année et je te souhaite un joyeux sabbat. À tout bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.